RFJ Info.
Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonsoir, Haute-Saône fera l'objet d'une enquête. Le gouvernement jurassien annonce aujourd'hui que des investigations seront menées pour de présumés dysfonctionnements au conseil communal. Explication dans un instant. Le gel de ce printemps a laissé des traces sur les pommiers de la région. La récolte s'annonce plutôt faible cette saison. Au verger d'Ajoie, les dégâts atteignent 80% de la production, mais cela n'augure pas pour autant une mauvaise année. Une réforme qui n'apportera que des problèmes et qui ne stabilisera pas le système des retraites. Les opposants à la prévoyance 2020 sont entrés en campagne cette semaine. Ils dénoncent notamment l'augmentation des rentes AVS. La chaleur sera encore de la partie demain. Le dernier jour de la semaine s'annonce bien ensoleillé jusqu'au milieu d'après-midi. De fortes pluies sont par contre attendues en soirée. Le gouvernement va donc ouvrir une enquête sur la commune de Haute-Saône. L'exécutif jurassien a décidé de mener des investigations après qu'une élue lui a rapporté des dysfonctionnements au sein du conseil communal. L'enquête commencera ces prochains jours et sera instruite par le contrôle cantonal des finances. Ses principales conclusions seront ensuite rendues publiques. Isabelle Chapat.
À 2 mois des élections communales, cette enquête risque de secouer la commune. Le communiqué diffusé aujourd'hui par le gouvernement ne précise pas la nature des présumés dysfonctionnements, mais ajoute qu'il s'agira de déterminer si les prescriptions légales et réglementaires ont été respectées par le conseil communal. Du côté des autorités communales, c'est no comment. Le maire, Jean-Bernard Vallat, indique n'avoir pas encore pris connaissance de la teneur du courrier envoyé par le canton et s'étonne d'une communication simultanée à la presse. Pour le conseiller communal Pascal Crétin, c'est là une manœuvre électorale et il ne voit pas quelques dysfonctionnements que ce soit dont aurait pu se rendre coupable le conseil communal. Quant à l'auteur de la lettre de dénonciation, elle n'est pas nommément citée, mais seules 2 femmes siègent à l'exécutif. L'une comme l'autre se refuse à tout commentaire pour le moment. Reste néanmoins que les bisbilles entre les membres des autorités communales ne datent pas d'aujourd'hui. Plusieurs de nos sources, qui préfèrent à rester discrètes, pointent le doigt du côté du PCSI. La composition des listes pour les élections du 22 octobre pourrait s'avérer instructive. La nouvelle venue, Haute-Saône Avenir, sera notamment formée de candidats de différents horizons politiques.
Et si l'enquête conclut à des dysfonctionnements, d'autres procédures pourraient être engagées. Manfred Buller n'était pas le bienvenu pour tout le monde hier soir à Sorvilliers. Le conseil national UDC de Corte-Hébert s'est rendu dans la commune pour assister à la présentation du gouvernement bernois en vue du vote communaliste du 17 septembre. Après quelques minutes passées dans la salle, le maire Henri Bourcalter l'a prié de sortir pour éviter des remous. Manfred Buller a évoqué sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Il précise qu'il n'avait averti le maire de sa présence avant la soirée en indiquant qu'il venait en tant que simple citoyen pour écouter, qu'il n'interviendrait pas dans les débats. Pour lui, la majorité autonomiste du conseil municipal de Sorvilliers est à l'origine de son évacuation. S'il déplore l'événement, Manfred Buller en restera là.
Je ne veux pas polémiquer inutilement, mais c'est vrai que malheureusement cet épisode illustre un climat délétère que beaucoup de citoyens et de citoyennes de Sorvilliers m'ont relaté, climat délétère entretenu par une partie du conseil municipal depuis des années, et je crois que ça le met parfaitement en lumière. Il y a une certaine forme d'intolérance politique qui règne chez certaines personnes du conseil municipal de Sorvilliers. Je le regrette infiniment et j'espère que cela pourra s'améliorer et surtout que Sorvilliers reste dans le Jura bernois.
Manfred Buller ajoute qu'il n'a pas agi par provocation, même s'il écrivait hier sur les réseaux sociaux avoir décidé de soumettre la majorité séparatiste du conseil municipal de Sorvilliers à un petit test démocratique. Cet épisode a provoqué de nombreux commentaires indignés sur Facebook. Le conseiller municipal autonomiste Jean-Marie Collère dément une action groupée. Il indique qu'un de ses collègues est intervenu auprès du maire pour lui signaler la présence de Manfred Buller alors que l'invitation était adressée aux citoyens. Jean-Marie Collère reconnaît que l'action était peut-être exagérée, mais pas surprenante.
Sur le fond, juridiquement parlant, il avait sûrement le droit d'être là. Maintenant, reste à savoir si, sur le plan sympathique, ce monsieur est accepté volontairement chez nous, de la part des Jurassiens. Des pro-bernois, certainement, parce que c'est leur copain, mais des Jurassiens, sans aucun doute pas, parce que il nous a assez craché dessus, notamment dans la campagne prévotoise.
Pour vous, cette présence, c'était une provocation ?
Je pense que M. Buller est suffisamment malin pour venir à Sorvilliers un petit peu titiller. Il prétend nous donner une leçon, semble-t-il, de démocratie, de tolérance, mais M. Buller fait partie de cette caste de l'UDC qui n'ont jamais cessé de nous cracher dessus, de nous insulter, d'insulter les autorités jurassiennes pendant toute la campagne. Et puis, c'est peut-être comme un retour de manivelle, un petit peu.
Un dossier réalisé par Alexandre Steiner. À Belpraon, dans l'autre village qui se prononce sur son appartenance cantonale, les partisans du non sont sortis du bois. Un groupe d'une dizaine de personnes qui appellent au maintien de la commune dans le canton de Berne le 17 septembre s'est constitué récemment. Il s'intitule « Groupe pour la défense des intérêts de Belpraon ». Ces arguments portent avant tout sur les aspects fiscaux et financiers que le groupe estime plus élevés dans le Jura. Il a réalisé un dépliant qui a été envoyé par courrier hier dans tous les ménages de Belpraon. Un des membres du groupe nous explique ce qui a motivé la constitution de ce mouvement, Werner Luthier.
Ce groupement, il a été créé par rapport au vote de Moutier. On s'est retrouvé, c'est plutôt une équipe de copains, apolitiques, sans aucune emprise d'un parti politique ou de quoi que ce soit. Alors, on fonce, l'équipe a presque 10. Notre décision de lancer ce comité, elle est surtout financière. En tout point de vue, que ce soit surtout assurance maladie, là, c'est le grand morceau. On a les voitures, et puis la majorité des citoyens de Belpraon, ils ont deux, voire deux motos. Puis si on fait le calcul, alors ça fait un joli saladier à la fin de l'année.
Les pommes ne courent pas les vergers cette année. La vague de gel survenue ce printemps a causé de gros dégâts chez les producteurs. Les récoltes vont commencer très prochainement dans la région, mais l'année s'annonce d'ores et déjà mauvaise et les pertes importantes selon la Fondation Rurale Interjurassienne. Ce sera notamment le cas pour les vergers d'Ajoie à Porrentruy, selon leur propriétaire Alain Perret.
On a beaucoup de dégâts puisque les pommiers étaient en pleine floraison. Donc beaucoup de fleurs détruites, puis on se retrouve avec une production d'environ 20% par rapport à une année normale, donc 80% de dégâts sur les pommiers.
En termes commercial, à combien se chiffrent les pertes ?
Pour moi, c'est vraiment difficile à dire parce que, de par mon expérience, je me suis aussi souvent rendu compte que les années compliquées, les années difficiles, c'était pas forcément des mauvaises années, puisqu'il y a plus de demandes, on vend les fruits un petit peu plus cher. Alors après, toujours à condition de pouvoir compléter son assortiment chez des collègues ou des choses comme ça, ce qui risque d'être compliqué cette année, puisque la plupart de la Suisse a été touchée. Hein. L'ensemble de la Suisse, je crois qu'on a 22 à 25% de moins par rapport à une année normale, toujours. Et puis le problème, il se répercute même sur l'ensemble de l'Europe, puisque sur l'ensemble de l'Europe, on a aussi ce phénomène de moins 20%. Donc ça va être compliqué. Le travail reste pratiquement le même. Hein. Je veux dire, nous, on est dans des cultures fruitières. Ça demande un entretien, ça demande un suivi, ça demande une protection phytosanitaire. C'est des travaux qui doivent être faits, qu'il y ait une production ou qu'il n'y ait pas de production. Parce que si on ne faisait pas ces travaux-là, ça amputerait encore la production de l'année suivante.
Dans l'actualité nationale, les opposants à la prévoyance vieillesse 2020 entrent en campagne. Une alliance des générations comprenant notamment l'UDC et le PLR a organisé plusieurs événements cette semaine. Ses membres ont proposé un spectacle sur la place fédérale et aujourd'hui un argumentaire qui dénonce un exercice injuste rompant le contrat intergénérationnel et ne résolvant pas les problèmes financiers de la VS. À Berne, les précisions de Serge Hubin.
À grand renfort de musique et de barbe à papa, les adversaires bourgeois de la réforme prévoyance 2020 ont singé la dégradation des conditions de la retraite lundi dernier sur la place fédérale, dans l'indifférence générale à peine une dizaine de spectateurs. Ce jeudi, toujours à Berne, le comité de l'Alliance des Générations s'est présenté devant les médias, un comité largement dominé par le PLR et par sa conseillère aux États saint-galloises, Karine Keller-Souter, accompagnée du vice-président du PLR, Christian Lucher. L'allié UDC n'avance que des élus ou anciens élus comme Tony Bertolizzi de seconde zone. On dira donc que ce comité faisait globalement plutôt pâle figure. Mais il a asséné ses arguments défavorables, dont un principal, l'augmentation de 70 francs de la rente mensuelle de l'AVS pour les nouveaux retraités ne passe pas. Le reste, oui, et même Karine Keller-Souter est d'accord avec le passage de l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans.
Je suis en faveur de l'augmentation de l'âge de la retraite, mais il faut aussi dire que finalement, cette augmentation, c'était un soutien pour l'AVS. C'est donc une cotisation supplémentaire d'1,2 milliards qui apportent les femmes à travers cette augmentation de l'âge de l'AVS. Et je trouve que c'est quand même cynique que ce montant est dépensé, même plus, c'est 1,4 milliard que coûte l'augmentation de l'AVS mensuelle de 70 francs. Et je trouve que c'est pas correct de faire travailler les femmes une année de plus pour financer cette augmentation.
Si le non l'emporte le 24 septembre, l'Alliance des Générations a-t-elle un plan B ? C'est surtout le PLR qui en a un, Karine Keller-Souter.
Si le peuple dit non, il dit non à l'augmentation de l'AVS. C'est assez clair. Et pour moi, grosso modo, on peut représenter la réforme que nous avons sans augmentation de l'AVS qui péjore vraiment de façon dramatique les finances de l'AVS.
Les partisans de la réforme prévoyant CIS 2020 prennent la parole demain vendredi.
Une camionnette a percuté des passants sur l'avenue touristique des Ramblas à Barcelone en fin d'après-midi. La presse parle de 2 morts dans un premier bilan provisoire. La police catalane évoque une attaque terroriste. Elle indique qu'une fourgonnette a fauché des dizaines de personnes qui se trouvaient dans le centre-ville de Barcelone. Le conducteur se serait enfui à pied, selon des sources policières citées par le journal El País. D'après les médias, 2 hommes armés sont ensuite entrés dans un restaurant du secteur qui a été bouclé par les forces de l'ordre. La Sierra Leone enterre ses morts après les inondations dans lesquelles 100 de personnes ont perdu la vie en début de semaine. Une cérémonie s'est déroulée aujourd'hui en présence du président Ernest Bahi Koromoa. Ce dernier a décrété 1 semaine de deuil national. Certaines victimes ont été inhumées à Waterloo, une localité proche de la capitale, à côté des tombes de personnes décédées pendant l'épidémie d'Ebola qui avait fait 4000 morts en 2014 et 2015.
Il est 18h11 sur RFJ.
Le sport avec la Loterie Romande.
Le retour sur la neige se passe mal pour Marcel Hirscher. Le skieur autrichien s'est fracturé la malléole de la jambe gauche aujourd'hui. Il a chuté à l'entraînement. Le vainqueur du classement général de la Coupe du Monde ces 6 dernières saisons devra porter un plâtre durant 6 semaines. Il ne devra toutefois pas subir d'opération. La durée de sa convalescence n'est pas encore connue. Une participation en léger recul pour le Jura Défi. Ce relais multisport par équipe va vivre sa 12e édition samedi dans les Franches-Montagnes. Le concept n'a pas changé. 4 à 6 concurrents parcourent au total 63 km à relais, en course à pied, en natation, en course de montagne, en vélo de route et en VTT. Alors que 129 formations s'étaient présentées au départ l'an dernier, elles seront 115 cette année. La concurrence des autres épreuves sportives en est la cause. Les précisions de Raphaël Dubail, co-organisateur du Jura Défi.
Je pense que s'il y aurait plus peut-être de communication entre les différentes manifestations, on arriverait peut-être à éviter ce genre de collision sur les manifestations. Et quand on se retrouve début juin avec 35-40 équipes et qu'on finit avec 115 équipes, on peut être que satisfait. Puis on voit que notre manifestation est une manifestation phare au Jura.
Cette baisse des inscriptions, ça signifie aussi que ça vous a donné un coup de boost et que vous allez apporter des nouveautés dans le futur?
On s'est dit, ben là maintenant, c'est le moment de trouver des solutions pour attirer peut-être ces personnes qui que c'est trop court pour une discipline à jour des filles. Ouais. On va aller dans la direction de ces gens-là pour leur offrir du plaisir, du fun et surtout de la sueur comme ils veulent. Alors, on ne peut pas en dire plus pour le moment, ça sera la musique d'avenir, mais en tout cas, on planche déjà sur l'édition 2018 et on a des bonnes idées à proposer pour la suite.
Raphaël Dubail répondait à Mathieu Schaffner. Les départs du Jura Défi seront donnés 30 minutes plus tôt que d'habitude, tant le matin que l'après-midi. Retrouvez tous les détails et horaires sur le www.juradefi.ch. Le château de Porrentruy sera au cœur d'une toute nouvelle épreuve sportive. Le premier cyclo-cross des Princes-Évêques va se tenir le samedi 9 décembre prochain aux alentours de l'édifice. C'est le groupe sportif Ajoie qui l'annonce aujourd'hui dans un communiqué. Le club organisera à cette occasion la 5e manche de l'Omnium Romand de cyclo-cross, l'équivalent de la Coupe Romande.
Voici les résultats du Quintet Plus qui s'est couru cet après-midi à Deauville dans le prix de Sassy, catégorie employé de l'année, et qui réunissait 17 partants. Il fallait jouer le 11, le 3, le 4, le 6. Hélas, je répète, 11, 3, 4, 6 et As. Le temps est bien ensoleillé en cette fin d'après-midi. Les nuages sont de passage, mais ils resteront inactifs. La soirée sera donc dans la continuité d'aujourd'hui, calme et douce. Demain, le temps sera le même qu'aujourd'hui jusqu'à la mi-journée. Dès lors, les nuages seront en nette augmentation sur l'ensemble de la région. Et dès la soirée, un front froid arrivera accompagné de fortes pluies et de quelques coups de tonnerre. Les températures resteront chaudes. Elles oscilleront entre 23 et 28 degrés au meilleur de la journée.